tout de suite, c'est le NRV avec du live ce soir. Donc, direction la cabine technique avec Marion Guilbeault et notre invitée Clara Isée pour vérifier une fois encore, j'imagine, les balances.
Ah bah oui, Laurent, vous savez, deux fois valent mieux qu'une, on écoute.
Au niveau de la voix, c'est pas mal. Est-ce que ce serait possible de la rendre un tout petit peu plus chaude?
Comment on rend une voix plus chaude, Clara?
Normalement, c'est la chanteuse qui doit le faire.
C'est bien ce que je me disais.
Ouais, donc là, en fait, vous avez demandé à Mathias, notre ingé son, de faire l'impossible presque.
Exact.
Bon, je crois qu'il y est arrivé. Oui. On va vérifier tout de suite.
Et chanter dans le studio, ça va? C'est pas trop difficile?
Non,
parce que quelquefois, on nous dit que c'est difficile pour la voix, qu'il y a une... Non?
Moi,
pour vous,
bien.
Ça bien. J'aime très bien. Bien. Alors, on vous retrouve. À tout de suite.
Merci.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre nouveau rendez-vous du soir qui compte double. 18h, c'est une avant-première sur franceinter.fr et en podcast. 22h minuit, c'est à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, Clara Isée se dédouble, se détriple même, trois titres en live pour fêter la sortie de son premier EP. Le monde s'est dédoublé. Denise Bombardier est avec nous ce soir. Parcours d'une journaliste star tout-terrain, politique, culturelle, qui dit tout dans Une vie sans peur et sans regret. Transfuge de classe, engagement politique, roman familial. Denise Bombardier, c'est à la fois Jacques Chancel, Christine Ocrinthe, Anne Sinclair et Léa Salamé. Bref, une exception culturelle québécoise. Denise Bombardier, bonsoir.
Bonsoir. Bon, ça en prend quatre pour me résumer, si je comprends bien. Ça me va.
Algorithme ce soir, ce sera avec Marion Guilbeault.
Et ce sera un algorithme très franco-francophone normal. C'est le vôtre, Denise Bombardier.
Dans le NRV, la suite, cinéma d'animation au programme. Pas si minuscule, Benoît Lagan.
Non, pas du tout.
C'est pas du tout, c'est ça. Ventes d'armes. Ah, mais c'est demain, c'est demain.
Oui, c'est demain. Ça n'a rien à voir.
J'ai pris un jour de plus, voilà. Vous voyez.
Le sujet est complètement différent.
C'est la vente
secret
d'armes.
Défense. Voilà, français. La vente d'armes à l'étranger. Des journalistes enquêtent sur ces armes qu'on aurait retrouvées au Yémen. Du coup, la DGSI enquête sur les journalistes qui s'intéressent à ce fleuron de l'industrie française. On en parle donc avec, autour de la table, Anne Poiré qui signe l'enquête Mon pays vend des armes. Et autour d'elle, Benoît Colombat de la cellule d'investigation de France Inter et de Disclose, Romain Mielcarec, journaliste indépendant, spécialiste des questions de défense, et Aymeric Helluin d'Amnesty International.
Je rigole parce que quand je vous ai vu, enfin, pendant que je disais donc cette fake news, cette fausse information sur ce qui allait être le NRV, j'ai vu vos yeux et je me suis dit, il me prend pour un démon. Ce mec a perdu la tête.
Il vit dans un dessin animé.
C'est dans un dessin animé. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Marion Guilbeault, on reçoit donc Céline Dion ce soir. Ah mais non, c'est pas Céline Dion, c'est Clara Isée.
Cet homme est vraiment complètement fou, ça y est, il perd les pédales en fin de saison. Non, c'est Clara Isée, c'est un ovni, hein, c'est la révélation de la fin de cette fin de saison musicale. Ça va nous changer complètement de la chanson tiède. Clara Isée, deux prénoms pour se faire un nom. C'est une jeune femme qui a été initiée très tôt à la musique, par le violon, par le chant lyrique. C'est une voix, Clara Isée, c'est une voix, c'est un chant, c'est une musique d'un autre temps. Moi je trouve qu'elle est plutôt proche de celui d'une Barbara ou d'un Ferré. C'est des chansons fortes, denses, émotionnelles, qui ont été écrites pour vivre avec la perte. On va parler dans quelques minutes avec elle. Résilience, amitié, poésie, musique, philosophie, renaissance, personnel, musical, wawa. Ça fait beaucoup, mais là, on va découvrir Clara Isée avec un premier titre en live. C'est à vous.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire t'éclaire de ses forts, t'éclaire de ses forts. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. j'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé, vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui luit. Il y a toujours un ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Super. Merci, merci Clara Isé.
Clara Isé, le monde s'est dédoublé, nous notre cœur a explosé à l'écoute de ce premier titre. Merci beaucoup Clara, je présente juste ces musiciens deux secondes parce qu'ils sont absolument extraordinaires. Il y a Camille au piano, Julio à la basse, Sedam qui joue de la clarinette, tout à l'heure il jouera du balaban. Il faudra nous dire qu'est-ce que c'est le balaban, moi je connais le balagan mais c'est autre chose. Et de la flûte et Naguib de la batterie.
Denise Bombardier, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je n'ai pas de mots.
Ah ouais.
Enfin, une chanteuse.
Pourquoi il n'y en a pas au Québec des chanteuses ?
Mais il n'y en a plus de chanteuses comme ça.
Ah.
Donc elle va moi, je crois qu'elle est hors du temps.
Hors norme.
Hors norme, donc qu'elle va avoir une vraie carrière. Je veux dire, parce que maintenant, les chanteuses, on n'a même pas le temps de savoir qu'elles sont chanteuses. Au bout d'un an, c'est fini. Vous voyez ?
La musique va très vite en
voilà.
ce moment.
Et bien ça, ça ne peut pas aller vite, parce que ça, c'est... Je veux dire, ça a une saveur d'éternité quelque part.
Ah oui, je vous voyais interdite devant cette voix. Clara Isé, deux
moi,
prénoms
si
pour se faire
agent,
un nom.
Je vous tout de suite le présenterai sur vous.
Clara Isé, ça vient d'où d'ailleurs ce nom ? Parce que Isé,
ce double prénom.
Isé, ce n'est pas votre nom de famille, c'est du Fourmentel.
Absolument. Isé, c'est mon deuxième prénom et c'est pour le partage de midi.
J'étais sûr que c'était Claudelien, bien
voilà.
entendu. Bombardier, vous êtes resté Bombardier tout le temps. Hein.
Quand on s'appelle Bombardier. Il faut assumer.
Ah ben ça, c'est
mais
facile à assumer.
Savez-vous quoi, j'ai découvert au fond, au cours de ma vie, que je préférais m'appeler Bombardier que la tendresse et la douceur, finalement.
Vous avez été mariée, mais vous avez quand même gardé ce nom. Enfin, il y a eu un moment. Il y avait deux noms.
Oui,
et puis à un moment donné, vous avez pu récupérer
oui.
ce nom de jeune
fille. C'est-à-dire qu'à partir de 1983, au Québec
ouais.
sous la pression des féministes, du mouvement féministe, les femmes, il y a eu une loi qui a décrété que les femmes ne portaient que leur nom de jeune fille. Mais comme je me suis mariée aussi, j'ai fait une répétition générale avant, dans un mariage qui n'a pas duré longtemps, j'ai un mariage étudiant, et je les résume dans mon livre en disant,
oui.
au moment où moi j'avais fini mon dessert, mon mari était encore au potage. Donc c'est juste une question de timing. Là,
ouais, ça marche pas là.
Et bien là, oui, je me suis appelée La Montagne, et la première chose que j'ai faite, mais spontanément, quand on a décidé de se séparer, mais gentiment, c'est que je suis tout de suite allée enlever le nom.
De La Montagne.
Oui.
Pour retrouver Bombardier.
Oui.
On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Clara Isé, donc, Marion Guilbeault.
C'est une première chanson là, que vous avez interprétée, c'est comme ça qu'on vous a découvert, on l'a passée dans le Nouveau Rendez-vous il y a quelques semaines. C'est une chanson en français, mais je sais que vous écrivez également en anglais, en espagnol. Alors à vos débuts, vous écriviez des chansons, des poèmes en français, des chansons en espagnol. Qu'est-ce qui résistait avec le chant en français ?
Je trouve que la langue française porte un tel lyrisme, à mon sens, que c'était difficile pour moi de lier la musique et la chanson, et la parole en français, quoi. Je trouve qu'il y avait il y a un côté où je trouvais pas la
porte. Et pourtant, vous avez étudié le chant lyrique.
Oui, absolument. Absolument.
Longtemps ?
Longtemps. J'ai commencé quand j'avais 8 ans.
Ouais.
Et je continue encore aujourd'hui.
C'était donc, quoi le modèle pour décider de faire du chant lyrique à 8 ans ?
En fait, c'est ma grand-mère qui m'a fait rencontrer cette professeure. Et je crois qu'il y avait un rapport à la discipline dans le chant lyrique qui m'a fait un bien fou quand j'étais petite. Et puis ensuite, mon père a fait une exposition de peinture à Glyndebourne dans un opéra en Angleterre. Et il m'a amenée. Et du coup, tous les matins, je me faufilais quand j'étais petite. Les gens acceptaient et je me faufilais dans les salles de répétition pour écouter. Et ça a été un baptême, quoi.
Au mariage de Charlotte de Monaco, vous allez chanter quoi? Je vous ai vu les yeux exorbités.
Elle s'est dit, il est dément. Décidément, il est dément.
Vous allez chanter quoi? En anglais, en français, en espagnol?
C'est une surprise pour Charlotte.
C'est une surprise pour Charlotte Kittinelli. On va parler de cette voix dans quelques instants avec vous, Clara Isée. La voix, c'est très important pour vous aussi, Denise Bombardier. On va revenir sur votre parcours que vous racontez dans Une vie sans peur et sans regret, la carrière de journaliste, les engagements, la famille contre laquelle vous vous construisez sans jamais renier vos origines sociales. On va parler de tout ça, mais d'abord une question sur votre voix à vous, parce que vous aussi, vous avez travaillé la voix très tôt, l'addiction, le vocabulaire, ouais. Et parce que vous avez fait de la radio aussi très tôt, enfant. Ouais. Qu'est-ce qui fait d'échanger dans votre voix, au départ ?
Ben, ça m'a aidé à... Enfin, sans le savoir, on me plaçait la voix, si on peut dire. Oui, j'ai pris des cours d'addiction à partir de l'âge de 3 ans, parce que ma mère considérait que la plus grande richesse qu'on pouvait avoir, c'était de bien s'exprimer. Donc, je viens du milieu où on parlait le joual. Évidemment, je déçois beaucoup de Français à chaque fois, toujours, depuis toujours. En France, ils disent, mon Dieu, c'est dommage, vous n'avez pas d'accent. Vous n'avez pas assez d'accent, vous n'avez pas beaucoup d'accent. Mais moi, je suis une intellectuelle, je ne suis pas une chanteuse, je ne suis pas Robert Charlebois, le magnifique, je ne suis pas Diane Dufresne. Donc, c'est sûr que j'ai compris très rapidement que sur des plateaux de télé, quand on parlait de choses sérieuses, ça avait fallu que je prenne l'accent comme ça, que je me mette à parler de même. Les gens auraient trouvé ça charmant. Ils m'auraient trouvé charmante, mais ils auraient totalement folklorisé ma pensée. Et c'est pour ça, et en plus, je vois pas pourquoi je parlerais comme quelqu'un qui a pas fait d'études quand j'en ai fait 23 ans.
Mais ça veut dire que, enfant, très rapidement, vous saviez que vous ne parliez pas comme les autres.
C'est-à-dire que j'ai appris à ne pas parler comme les autres, sauf que ma mère ne parlait pas comme ça. Je n'étais pas Canada, puis moi, puis toi. Mais c'est sûr que j'ai appris à m'exprimer et je me suis rendu compte d'une chose. Parce qu'au Québec, c'est pour ça aussi que je fais peur. Parce que je fais peur, j'ai fait peur longtemps au Québec aux gens. Là, maintenant, je les ai tous à l'usure, ça va. Mais c'est que je contrôle la langue. Et c'est pour ça que la relation de départ entre les Québécois et les Français, c'était un peu compliqué, parce que pour qui ils se prennent pour parler comme ça, vous voyez? Et ça, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est un peuple, l'histoire dans mon milieu à moi, les gens n'étaient pas instruits. Je veux dire, je suis parvenue, d'ailleurs, c'est la première phrase.
C'est la première phrase, je suis une parvenue.
Ouais. Au sens littéral du terme. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je suis parvenue là où je suis. J'en suis très fière. J'en suis très fière parce que, effectivement, j'ai jamais renoncé. Et je trouve qu'une de mes forces, et c'est pour ça que je déstabilise aussi, c'est que moi, je n'essaie pas de parler comme le peuple. Je n'essaie pas de penser comme le peuple, parce que je suis née du peuple, c'est ça. Je suis née dans un milieu d'une telle pauvreté culturelle, et ma mère, c'est l'héritage principal qu'elle m'a laissé, c'est ça.
De se battre contre ce milieu, oui, de l'intérieur.
Oui, ouais. Et avec les religieuses, une fois arrivées à l'école, puisque toutes les écoles étaient... Je veux dire, nous, vous savez, on n'additionnait pas des pommes et des oranges à l'école, on additionnait des crucifix et des médailles. Alors donc, il y a jusque dans les années 60.
Une société trempée dans l'eau bénite, c'est ce que vous racontez.
Ah, complètement.
On va revenir sur ce parcours. On vous a demandé des sons à chacune. Voici le premier que vous avez choisi, Denise Bombardier. Il est intime. Un homme qui marche dans un escalier.
Ouais, mon père qui arrivait le soir de travailler. Et dès qu'il entrait dans la maison... Je veux dire, ça... Comment vous dire ? Il occupait tout l'espace d'une tension épouvantable pour des enfants. Et tout de suite, il se mettait à gueuler, à nous engueuler, à plus qu'à nous engueuler. Mais depuis mon plus jeune âge, il changeait de personnalité. Mon père, en fait, était un terroriste familial. Alors, les gens primaires disent « Ah oui, il vous a battu, il vous a abusé sexuellement. »
Non, c'est pas du tout ça.
Hein. C'est pas du tout ça. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Enfin, je sais une chose, parce que je suis passée par la psychanalyse à 20 ans pour comprendre un peu ce qui m'arrivait. Mais j'ai jamais cherché plus. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas avoir de regrets. J'ai jamais essayé de comprendre. Parce que si j'avais essayé de comprendre, j'aurais passé le reste de ma vie à me demander pourquoi mon père me traitait de chienne et de tous ces gentils mots, puis de vaches, puis de mots comme ça. Ma mère et moi, quand j'étais petite, ça se comprend pas.
Mais parce qu'il était fou.
Parce qu'il était fou. Au fond, l'asile, c'était chez nous. Ouais. Je peux pas mettre de, je mets même pas d'étiquette. Il était fou. Et, il fermait les, en plein hiver quand même. Vous savez, au Québec, il fait moins 25, moins 30 l'hiver. Il fermait le chauffage. Parce qu'on chauffait à l'électricité. Il fermait le chauffage. Et on dormait avec des manteaux. Mais ça, dans la petite enfance. Donc, mais comment il se fait? Parce que le plus grand mystère, c'est pas quelle sorte de folie mon père avait, c'est comment il se fait qu'à 5 ans, à 4, 5, 6 ans, je me disais, ça, c'est pas la vie. Et je pensais, mais presque à haute voix, tous les hommes sont mieux que mon père.
Et c'est ce que vous avez vérifié beaucoup plus tard, justement,
oui.
Notamment avec des mariages, avec des hommes heureux, avec vous.
Avec des hommes qui m'ont aimé.
C'est déjà pas mal.
Qui m'ont nommé, qui m'ont prénommé et qui m'ont aimé.
Du cinéma pour vous, Clara Isé.
Il y a, malgré vous, quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte, malgré vous. Et c'est...
C'est...
Panache.
Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, pour vous, Clara Isé.
Oui.
Quel lien avec ce film, ce texte, cet acteur, je ne sais pas, ce metteur en scène?
C'est d'abord une pièce de théâtre que j'ai lue toute mon enfance dans ma chambre, de long en large et en travers, et en la répétant 45 000 fois. Et après, quand j'ai découvert le film, petite, c'était... Je me prenais pour Cyrano. Enfin, je crois que j'ai toujours voulu être un homme pour jouer ce rôle-là. Voilà, ça m'émeut.
Qu'est-ce qui vous touche dans le personnage de Cyrano?
Je crois que c'est le fait de se battre pour rien, juste pour la beauté du geste. Ça me bouleverse, je crois.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée, je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi, je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaye de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
Suis-moi, signé Aurel San, le nouveau héros de la francophonie, et ça a tellement plu aux musiciens de Clara Aizé, notre invité, qu'ils ont improvisé un accompagnement en direct pour nous seuls.
Rendez-vous.
Les bravos du monde n'ont pas pu secourir Marianne.
Laurent Goumard.
C'est à elle que je pense, à qui je dis merci.
Sur France Inter.
Céline Dion, La Diva, c'est vous qui avez signé cette chanson, Denise Bombardier. Vous y revenez d'ailleurs dans vos mémoires, Une vie sans peur et sans regret. Des nouvelles de Céline Dion que vous aviez suivies en tournée, à qui vous avez aussi consacré un bouquin?
Oui, j'ai fait un essai sur elle, ouais. Parce que Céline Dion, c'est un phénomène social. La 14e d'une famille de 14 enfants. Qui ont vécu dans la pauvreté et qui arrivent au sommet de la gloire en très peu de temps, finalement. Non, depuis un an, je n'ai pas de nouvelles. Enfin, normalement, je vais la voir à Vegas. D'ailleurs, j'y serais allée en juin parce qu'elle termine. Mais non, je n'ai pas. Je vois...
Vous voyez passer
des
images ?
Je vois comme vous les images, oui.
Oui, alors, ça vous va ? Joker, j'ai l'impression.
Je ne sais pas.
D'accord. C'est bien la première fois que vous ne savez pas, Denise Bombardier.
Oui, oui.
Journaliste, écrivaine québécoise, une figure majeure de la télé à Radio-Canada, une héroïne médiatique qui a tout fait, tout animé, magazine de reportage, interview politique, magazine scientifique, éditorialiste dans la presse écrite. On va y revenir. Comédienne aussi. En 67, petite heure de gloire avec le film Entre la mer et l'eau douce de Michel Brault. Et même Claude Lelouch en 93. Mais alors là, presque coupé au montage.
Ben, je vais vous dire pourquoi.
Non, tout ça pour ça.
Il m'a fait venir à Paris. Et là, il m'a installé devant l'acteur principal et il a dit « tu vas répondre à ces questions ». Et j'ai répondu aux questions. Enfin, j'ai improvisé, quoi.
Ouais.
Hein? Et ça, on a fait ça durant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Et après, il m'a dit « c'est pas possible parce que tu racontes tout le film mieux que, je peux... que lui peut raconter sa vie ». Donc, il l'a enlevé, il a laissé ça sur le générique.
Et on voit juste votre visage,
ça.
Deux secondes.
Ça a justifié, mon trajet de Nantucket à l'île de Moby Dick où j'avais une maison, jusqu'à Paris en première classe. Et à cette occasion, je m'assois en première classe et un monsieur vient s'asseoir à côté de moi, je ne connais que lui. Il est beau, 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 je ne connais que lui. Et comme ça m'arrive à moi, les gens disent « Mon Dieu, qui vous êtes-tu maintenant ?» Et puis les gens vieillissent, ne se souviennent plus trop. Et là, une fois qu'on a dégueulé, je suis allée voir les hôtesses d'Air France qui étaient toutes émoustillées. Et
vous aussi, manifestement,
oui,
encore.
Et, ouais. Oui, moi encore. Et j'ai dit « Mais qui est à côté de moi ?» Ils ont dit « Mais Madame Bombardier, c'est Harrison Ford. » Et j'ai traversé avec lui, on a mangé, il était charmant.
On croise plein de gens dans votre, sur ce vol, plein de gens dans ces mémoires. On y croise des politiques, bien sûr. Alain Perfitte, votre mentor, vous le dites.
Un de mes mentors.
Un de vos mentors, François Mitterrand, Rocard, Pierre-Éliott Trudeau. Justin Lefils, vous le trouvez comment, vous ?
Insignifiant.
C'est vrai ?
Merci. Oui, c'est un homme de l'apparence, donc c'est un homme de la politique d'aujourd'hui. Et les gens votent pour lui parce qu'il est beau. Alors, ça dit un peu ce qu'est l'époque politique. Voilà.
Et c'est une femme engagée qui parle. On croise des hommes d'église, des artistes, des écrivains, Benoît de Groult. On croise aussi celle qui avait écrit Les Mémoires d'Adrien, avec une interview incroyable. Enfin,
incroyable.
Vous racontez un truc incroyable. Même, alors là, vous dites qu'il n'y a pas de regret. Si, il y en a un à ce moment-là, où vous dites que plus jamais la radio ne pourra inviter des gens de cette dimension.
C'est à ce moment-là où vous regrettez ça. Non, mais c'était
pour la télé. Ouais, pour la télé.
C'est le directeur des programmes de Radio-Canada qui avait décidé que la télévision canadienne avait besoin il était un admirateur de Marguerite Yourcenar, parce qu'il y avait déjà la télévision, là, je vous le dis très franchement, on était déjà rendu là, des gens qui savaient pas trop qui elle était. Bon. Et j'ai fait une heure et demie, enregistré une heure et demie avec elle, par tranche de 30 minutes. Et elle a exigé que je déjeune avec elle avant, elle était au Ritz.
Et hein, vous étiez au Sancerre. Enfin, elle était au Sancerre aussi.
Elle était au Sancerre, mais j'étais obligée d'être au Sancerre, alors que moi, je suis plutôt, surtout pas avant d'aller travailler. Mais ça a été une expérience, je dirais que ça a été une expérience totale, voyez-vous.
Oui, parce qu'elle vous a fait parler de vous, de votre enfance
notamment.
C'est ça
qui est, oui, ouais. Exactement. Et elle m'avait surtout raconté un truc. Pendant qu'elle écrivait les mémoires d'Adrien, donc, on faisait des travaux dans sa maison à Desert Island, sur la Bitter Maine. Et, on venait, à tout moment, les ouvriers venaient la déranger en disant, would you come? I think we have a problem. Elle se levait, elle y allait, allait voir si, comment ils travaillaient. Elle me la raconte comme ça. Et revenait, et elle rentrait, et elle revenait dans le monde d'Adrien. J'avais devant moi un monument, quoi.
Alors, un monument, vous en avez eu plein devant vous, des monuments politiques, Golda Meir, François Mitterrand, bien sûr des figures de la politique québécoise. Quelle était votre approche de l'entretien politique? Et je me suis demandé, parce qu'il est beaucoup question de votre milieu d'origine, hein, ça commence comme ça, sur ce milieu modeste. Est-ce que ce milieu d'origine modeste vous a servi en tant que journaliste, et notamment journaliste politique? Denise Bombardier.
Moi, d'abord, j'ai commencé dès mes premières entrevues politiques. Je prenais des notes quand même. Je préparais, je mettais 25 heures pour préparer un entretien d'une demi-heure ou une heure. Mais je les mettais dans mes poches. C'était comme la security blanket des bébés, hein, avec leur doudou. Et après, à un moment donné, avec l'expérience, bon, j'avais même plus besoin de ça. Autrement dit, ça déstabilisait mes invités parce que j'avais pas de notes.
Vous n'aviez rien devant vous,
ouais. Et je vous dis pas comme ça
moi.
Parce que vous en
avez. Non, mais moi, j'ai toutes mes notes devant moi, en effet.
Mais ouais. Moi, j'avais rien devant ma table.
Moi, j'en suis incapable.
Donc, c'était la première question. Et la première question, tu boxes pas ton invité. Et en plus, si tu penses que tu vas aller te coltailler avec des gens comme ça, c'est que ton quotient intellectuel est pas assez élevé pour être assis devant eux. Alors donc, il faut que tu comprennes à qui tu as affaire. Et donc, ça peut être des fois. Et la première question était fondamentale et j'ai toujours cru, finalement. Même si je suis immodeste, parce que Nietzsche a dit les gens modestes ont souvent de fort bonnes raisons de l'être, je m'en suis souvenue. J'ai toujours cru qu'on pouvait poser une question et que juste à cause de la présence et de la force de la présence de la personne qui interviewe, que c'est la personne qui est en face de nous et qui a été interviewée par des milliers de gens, pour beaucoup d'entre eux. Eh bien, qu'elle va me dire des choses qu'elle ne dira à personne. C'est ça une bonne entrevue. En fait, c'est une conversation.
Exactement. Alors, on va peut-être continuer dans ce registre-là. Votre génération, Denise Bombardier, a vraiment participé à la transformation du Québec avec une date clé, oui, qui est 1967. Sur le plan économique, social et culturel, c'est une génération qui a renversé le bénitier dans lequel vous avez trempé durant toute votre enfance. Mm-hmm. Comment vous vous êtes construite politiquement et est-ce que ça a pu nuire, parfois, à ce parcours de journaliste politique?
Non, parce que dès que j'ai commencé à être journaliste, dans les années 70, à la fin des années 60, mais surtout 70, quand j'avais pris... En fait, en 70, je suis venue ici, j'ai fait un doctorat, et après, j'ai eu des émissions. Non, moi, j'ai été heureuse d'appartenir à la culture anglo-saxonne, pour ce qui est du journalisme, parce qu'on est obligé d'être en retrait. Parce que le militantisme, ça correspond pas du tout, ça aide pas.
Quand vous l'avez été. Pourtant,
je l'étais avant, oui, quand j'étais à l'université, quand j'étais étudiante. J'étais dans le mouvement « Je croyais à l'indépendance du Québec ». Ça a été le rêve de ma génération, d'avoir pu rêver qu'on pourrait avoir un pays. Eh ben, on a déchanté par la suite, mais on a eu des moments d'exaltation extraordinaires parce qu'on est aussi sorti de la religion, on est aussi sorti de l'emprise de l'Église. Moi, dans mon enfance, et c'est pas vrai que c'est de la nostalgie, dans ma jeunesse, j'ai vu le changement au jour le jour. Hein, on n'avait pas de ministère d'éducation, c'était contrôlé par l'Église. Tu ouvres le journal le matin, le ministère de l'Éducation était créé. C'était terminé la domination de l'Église sur l'éducation. Après ça, la censure au cinéma est abolie parce qu'il y avait censure au cinéma. Surtout, c'est ce qui était très embêtant pour nous, c'était parce que dans les films américains, ils les faisaient dormir dans deux lits, dans des lits jumeaux. Mais vous, les acteurs étaient dans le même lit, puis on voyait bien qu'ils étaient pas trop habillés. Bon, mais on pouvait pas voir ça dans les années 50 au Québec. Le père de mon fils, qui était beaucoup plus âgé que moi, lui, qui était un cinéphile, allait à New York pour voir les films français. Parce qu'il y avait des films français qui n'étaient pas présentés chez nous. Donc, on est sortis de tout ça. et on s'est émancipé grâce au nationalisme. Et c'est pour ça que j'ai toujours un serment au cœur ici, parce que quand on dit nous on est nationalistes, on nous compare
au Front National, enfin au Rassemblement National.
Oui, voilà, mais ça n'a rien à voir, ce nationalisme qui nous a permis de nous sortir de cette grande noirceur, comme on l'appelait, et de s'émanciper. Mais on n'a pas assumé jusqu'au bout pour toutes sortes de raisons. Donc il y a eu deux référendums, puis ça a été non deux fois. Voilà.
Alors justement, je me suis demandé comment vous regardiez la France. D'ailleurs, vous en donnez des éléments. Hein, c'est la toute fin du roman familial, la toute fin de ses mémoires. Vous parlez de cette France qui est quelquefois, et vous le regrettez, haïe par les gens même qui sont français.
Oui.
Et je voudrais
mais
avoir votre avis.
Haïe aussi par les anglo-saxons par rapport à la laïcité. Et alors, à ce moment-ci... Au jour d'aujourd'hui, dans 15 jours, il y a un projet de loi qui va être adopté à l'Assemblée nationale, un projet de loi sur la laïcité qui va faire que les policiers, les agents, les juges et les gardiens de prison et les enseignants de primaire secondaire publics ne pourront pas porter de signes ostentatoires. On s'est fait, mais on a été insultés, injuriés depuis deux mois par tout le reste de l'Amérique du Nord, par tout le Canada. Et à chaque fois, on disait que les Québécois, puisque la majorité des Québécois, les sondages le disent, sont favorables, et la majorité des anglophones du Québec et les allophones, qui sont les immigrants, sont contre cette loi-là. Et donc, ça va passer, mais ils menacent après de pas respecter la loi et des choses comme ça. Et on se fait dire qu'on est comme les Français, c'est-à-dire un peuple de racistes. Et ça, ce qui me... Je dirais pas que ça me blesse, mais ça me blesse. Que je débarque et je vois mes confrères ici et puis mes consoeurs, personne n'est au courant de ce combat. Et là, on en prend plein les épaules, pour être poli, pour utiliser une expression polie, de se faire démolir, de se faire traiter de raciste. Notre premier ministre se fait traiter de nazi. Il y a un maire dans une banlieue de Montréal qui a dit qu'on pratiquait le nettoyage ethnique. Et en faisant référence à la France, en disant évidemment, ce sont des Français. Parce que notre vision de la société est une vision qui nous vient de nos racines françaises. C'est cette vision de la laïcité. Et en plus, c'est minimal ce qu'on demande tout de même. Parce que maintenant, on a des femmes voilées qui enseignent à l'école.
Et comment vous regardez aujourd'hui la situation en France, les gilets jaunes, les européennes, le vote? Vous qui avez tenu, il y a quelques années, une chronique ici, à la radio, sur France Culture. C'était dans l'émission de Brice Couturier et de Laura Adler. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce qui se passe en France, sur le vote, les résultats du vote, par exemple?
Vous dire le vote sur l'Europe?
Oui, le vote sur l'Europe.
Bon, ben là, c'était attendu. De toute façon, je trouve que finalement, M. Macron s'en
est bien sorti.
Oui, mais c'est le seul qui était... C'est le seul qui rallie les gens, maintenant. Et vos partis sont éclatés. Alors donc, le Parti Socialiste est éclaté, l'extrême gauche, évidemment, vous avez vu les résultats, c'est pas pour me déplaire d'ailleurs, parce qu'on a l'équivalent chez nous. Mais je sens une fatigue d'un vieux pays qui n'a eu de cesse de se battre. Mais maintenant, c'est vrai que vous êtes aussi accablés. Et vous n'êtes pas aimés par des gens qui vivent chez vous et qui veulent pas dire qu'ils sont français, en plus. Mais quand je suis arrivée dans les années 70, on n'en était pas là du tout. Les gens étaient contents de parler français. Hein? Ils étaient fiers. Ils se vantaient d'habiter ici. Et où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Et je trouve que les Français s'autoflagellent aussi.
Ah, ben ça, c'est exactement la fin de Une vie sans peur et sans regret. Donc, les mémoires qui sont parues chez Plon. Vous restez avec nous, Denise Bombardier. Oui. Tout de suite, il va être question de votre algorithme avec Marion Guilbeault.
Bonjour.
Bonjour.
Viens voir Marion.
Vous avez rendez-vous?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits. Phil Collins, Skate Jared.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart?
Oui. C'est lequel?
Le dernier.
Sur France Inter.
On va parler musique avec vous qui avez connu à la fois Régine Crespin et Céline Dion, avec Marion Guilbeault. Marion.
Bon, je rappelle le principe de l'algorithme, hein, Denise Bombardier. On va partir de votre ADN musical, voir qu'est-ce qui vous constitue musicalement pour vous proposer quelque chose de nouveau à découvrir, à écouter et peut-être à aimer. Alors, on part du Québec, bien sûr, hein, c'est là que tout prend racine. Votre histoire, votre vie, votre carrière sont tellement liées à celle de votre pays que dans votre ADN, il y a forcément une place pour celui qui l'a incarné pendant plus de 90 ans. C'est un poète, un chanteur, un comédien, un monument national. Vous me voyez arriver.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine.
Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
Gilles Vigneault, Mon pays, on est en 1965. Vous êtes à l'époque une jeune étudiante. Qu'est-ce que ça représentait, un chanteur comme Gilles Vigneault? Est-ce que vous l'écoutiez? Est-ce que c'était, ça faisait partie des choses que vous écoutiez à l'époque, j'imagine?
Mais bien sûr, puisque en plus j'étais favorable à l'indépendance et c'était, je veux dire, tout était possible à ce moment-là. Et vous voyez, j'entends la chanson et j'ai de la difficulté à l'écouter.
Ouais, je vois que vous avez.
Parce que je vois ce qui est arrivé depuis et on n'a pas été capable d'assumer jusqu'au bout. On a eu peur, parce que les Québécois, c'est un peuple minoritaire en Amérique du Nord. Et cette peur-là, et c'est pour ça que dans mon titre, moi, je vais vous dire, j'ai trop eu peur de mon père pour que personne ne me fasse peur après. Vous voyez ? Alors, c'est sûr que... Mais en même temps, je suis une pragmatique, parce que je suis l'Amérique du Nord aussi. Je pense que ça joue dans mon ADN politique. Et donc, après, j'ai pris du recul. Et la veille du référendum, j'ai interviewé le camp du non, et la veille, le camp du oui, qui était le premier ministre René Lévesque. Et j'ai une amie qui est connue à Paris, elle était la déléguée générale du Québec, elle a été ministre dans le gouvernement du Parti québécois, Louise Baudouin, avec qui j'étais devenue amie entre-temps, et qui m'a dit, écoute, je ne sais pas si tu votes oui ou non, mais si tu votes non, je te parle plus.
Dans votre ADN musical, on trouve aussi beaucoup de musique classique. Beethoven, Mozart, c'est votre idole absolue, paraît-il, la musique baroque anglaise. Pas beaucoup de pop, pas beaucoup de variété, ça n'a pas l'air d'être votre truc. Vous avez même attaqué des émissions de télé-réalité musicale alors que vous avez participé, je crois, à l'une d'entre elles en 2005. Et cette année-là, la chanson thème, c'était ça.
Je la vois déjà. Cette étoile dans la nuit, je l'entends déjà. Cette voix qui me poursuit, elle me dit, viens cueillir la vie. Je suis femme, musique et amour, rien. Oui, mais comment vous le dire? Nous de la terre, on ne sait pas. Car maison, travail savent nous retenir. Alors comment vous appartenir? Mais l'Amérique, bien coulée, mon amour, ne me laisse pas la main. Depuis les temps qu'on se cherchait, je la vois déjà. Cette étoile dans la nuit, je l'entends.
Claude Léveillé, c'est ça?
Oui, Claude Léveillé.
L'étoile d'Amérique, vous vous en souvenez de votre participation? C'était la Star Academy de Julie Snyder, c'est ça?
Et vous savez pourquoi?
Non, bah,
parce qu'on m'a demandé d'aller apprendre aux enfants.
Aux
jeunes. Non, mais c'est ça qui arrive quand on vieillit. Ouais, on les appelle tout le monde est plus jeune que nous. Mais je suis allée pour leur apprendre à parler français. Et quand ils entraient dans cet atelier, c'était l'atelier qu'ils redoutaient le plus. Parce qu'ils avaient peur de moi, puis ils disaient, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ils n'osaient même pas parler. Parce que c'est pas possible qu'ils chantent dans une langue qui est la langue française, et qui, à l'époque c'était encore la langue française, et qu'ils ne puissent pas s'exprimer en français. Donc je leur donnais, et c'est pour ça que j'y suis allée. Et un jour je suis allée parler devant l'Académie des sciences morales et politiques ici, et je leur ai dit, vous savez, moi je fais Star Academy, je sais que tout le monde levait le nez là-dessus. Mais j'ai dit, vous savez, les voies du Seigneur sont impénétrables. Parce que moi, c'est là que je suis allée. Et après, les enseignantes des écoles m'écrivaient, et les enseignants me disaient, oh, Madame Bombardier, les enfants dans la classe, ils disent, faut parler comme Madame Bombardier. Vous voyez, ça a fait son chemin. C'est une sorte de pédagogie. Et il faut pas refuser d'aller là où sont les gens qui ont besoin de pédagogie. Et on m'a donné cette tribune, et c'est pour ça que j'y suis allée.
Alors, dans votre ADN, on trouve aussi votre grande copine Céline Dion, hein, avec qui vous avez collaboré. Un plaisir coupable, paraît-il, pour Elvis Presley, les crooners américains, peut-être les crooners français.
Bah oui, elle s'est fait serrer sur Perricomo.
Non, mais c'était ça. Moi, quand j'étais adolescente, j'aimais déjà Brassens, Béco, enfin, tous les chanteurs français. Mais quand c'était le temps de danser dans les sous-sols, pas dans les sous-sols, mais dans les sous-sols des maisons, le samedi soir, évidemment, on danse pas sur Brassens, puis
on danse sur I Believe de Perry Como.
Non, on se fait serrer. Oui, exactement. Mais moi, je voulais en plus, mais moi, j'avais peur de me faire serrer. Après ça, je me suis amadouée.
Alors, je me dis que pour une amoureuse des mots comme vous, de la chanson, une frondeuse qui se moque de la norme, il y a certainement une place dans votre ADN pour accueillir une jeune musicienne française. Elle voulait être trapéziste, elle a été orthophoniste. Elle s'est nourrie de jazz, de Brel, de Brassens, elle aussi, mais aussi de Giono, et de Robert Merle. Elle a joué du folk avant d'écrire des chansons anthracites, des chansons qui, elle aussi, comme Clara Isé, ont des vertus thérapeutiques. Elle s'appelle Louise Thiolon, c'est son nom. Elle chante le manque, le flou sentimental, la vie, tout ça à contre-courant des sons de notre époque, tout en douce intensité.
Auras-tu tu la peur au ventre, le regard déçu des survivants et le bleu, ce bleu qui rentre. Avant que tu n'éteignes, avant que tu n'apprennes qu'à te taire.
Alors, carton rouge, carton bleu.
Réveille-toi, Louise Thiolon.
Ouais. J'ai l'impression, en fermant les yeux, je me dis, je suis dans les années 60 ou 70, parce qu'on chante plus comme ça. Elle chante maintenant.
Ouais. Oui, elle chante aujourd'hui.
Donc, ouais, ça veut dire que ça revient.
Exactement.
C'est le balancier.
Ça revient. Son premier album porte le très joli titre de N'obéir qu'à la terre. Et ça vient juste de sortir il y a une semaine.
Ah, très bien.
Eh bien, tout de suite, on part en live. On va retrouver Clara Isé au micro avec ses trois musiciens.
Rendez-vous.
Ils sont quatre, ils sont pas trois. C'est complètement dingue aujourd'hui. J'avais pas vu, il y en a un qui est planqué derrière l'affiche.
Ouais, nouveau titre de cette EP, de ce premier EP, Le Monde s'est dédoublé de Clara Isé. Elle est prête, elle est derrière les micros, les musiciens aussi, c'est à vous.
La loca del pueblo habla al viento, sus odores como la lluvia que hace el mundo crecer. La loca del pueblo habla al sol y su aliento es como el fuego que da luz al amor. La loca del pueblo habla al viento, sus odores como la lluvia que hace el mundo crecer. La loca del pueblo habla al sol y su aliento es como el fuego que da luz al amor. Après le soir et la tempête naisse des feux que je projette haut en cachette glisse et s'envoie des amulettes dans mes mains légères. J'aime guetter en silence leur magnétique présence. Et si dans la nuit je les découvre, le ciel entier semble se dissoudre. J'aime les joies trop intenses, je ne peux pas m'empêcher de vouloir toujours que l'on danse partout où je mets les pieds. Lorsque l'horizon balance, apparaissent les noyers de mes yeux longs de ses penches. Sus odores como la lluvia que hace el mundo crecer. La loca del pueblo habla al sol y su aliento es como el fuego que da luz al amor. La loca del pueblo habla al viento, sus odores como la lluvia que hace el mundo crecer. La loca del pueblo habla al sol y su aliento es como el fuego que da luz al amor. Je vous dirai, mes anges, que sans vous, ces jours-ci, j'aurais rejoint ma mère au paradis. Grâce à vous, mes amis, tendrement, j'ai appris à chérir de nos corps et la sauvagerie. contre ma tête, leur souffle stellaire. J'aime les joies trop intenses, je ne peux pas m'empêcher de vouloir toujours que l'on danse. Partout où je mets les pieds, lorsque l'horizon balance, apparaissent les noyés de mes yeux longs, de ses penches. Dans mes nuits, je vais plonger. La loca del pueblo habla viento, sus sudores con la lluvia que hace el mundo crecer. La loca del pueblo habla sol y su aliento es como el fuego que da luz al amor. La loca del pueblo habla viento, sus sudores con la lluvia que hace el mundo crecer. La loca del pueblo habla sol y su aliento es como el fuego que da luz al amor. La loca del pueblo habla viento, sus sudores con la lluvia que hace el mundo crecer. La loca del pueblo habla sol y su aliento es como el fuego que da luz al amor.
Clara Isé, Feu Magnétique, c'est un nouvel extrait de ce premier EP. Le monde s'est dédoublé, le temps pour Clara de saisir une chaise, de saisir une guitare.
Ah oui, il y a la guitare aussi qui arrive.
Oui, c'est le temps de la reprise qui arrive. Je vais pouvoir vous dire aussi qu'elle va être en première partie d'Arthur H. Ça va être au Cabaret Sauvage à Paris le 15 juin. Et ça, Laurent, je pense que ça va être juste un superbe concert. Vous êtes prête, Clara?
Presque.
Oh, presque. Prenez, prenez votre temps.
Prenez votre temps. Tout la va chaise, bien. C'est bon. La guitare. Une reprise anglo-saxonne, si je regarde bien ma feuille.
Une reprise anglo-saxonne, et vous allez pouvoir nous dire de qui il s'agit. Ou alors on en parle après ? Vous nous faites la surprise ?
Je vous fais la surprise.
D'accord.
You got me looking so crazy, my baby, I'm not myself. Lately I'm foolish, I don't do this, I've been playing myself. Baby, I don't care. Baby, your love's got the best of me. Your love's got the best of me. Maybe your love's got the best of me. Maybe you're making a fool of me. You got me sprung, but I don't care who sees. Cause baby, you got me. You got me. You got me. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. I call your name two or three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling and my pride, I want to blame. I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now, your love. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Your love got me hoping you'll save me right now. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy, love. Got me looking so crazy, love. Now your touch got me looking so crazy right now. Your love got me hoping you'll save me right now. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy, love. Got me looking so crazy, love.
Ah, sublime. Merci beaucoup,
merci
Clara Isé.
Les auditeurs auront reconnu Crazy by Love de Beyoncé. par Clara Isée. Elle était accompagnée aussi par ces dames avec ce fameux balaban. J'ai compris ce que c'était, Laurent. C'est une espèce de petite flûte aussi, tout simplement. La prise de son était superbement assurée par Mathias Alléon, Loïc Frapsos et Léo Prangère. Et à la vidéo, parce qu'on a entendu la voix de Clara Isée, mais on peut aussi aller voir son visage. C'est sur le site franceinter.fr et sur nos internets à nous.
Juste peut-être avant de parler de la reprise, il y a des résonances, on l'entend bien, espagnoles quelquefois dans vos chansons, dans celles que vous venez d'interpréter, Fait magnétique. Quel est le rapport que vous avez avec cette langue précisément pour que ça revienne comme ça dans ce premier EP, Clara Isée ?
J'avais une nounou colombienne, mais qui m'a suivie vraiment jusqu'à mes 12, 13, 14 ans, et qui a été vraiment comme une deuxième maman pour moi, et qui parlait pas français, donc elle parlait espagnol, et on parlait espagnol ensemble. Voilà.
Donc un album qui est doublement hanté, donc par cette nounou colombienne, mais aussi on le sait, quand on entend les chansons, notamment Fait magnétique, on entend bien aussi un album hanté par la disparition de votre mère, hein, Anne Dufour-Montel, philosophe et psychanalyste, je le rappelle, qui est morte, décédée, noyée en 2017. J'imagine que tout l'album est construit autour de cette disparition. Quel est le premier texte que vous avez écrit et composé après ce drame, Clara Isée ?
Les paroles, c'est « Le monde s'est dédoublé ».
La première chanson qu'on a entendue tout à l'heure.
Ouais. Et Liberta, qui est dans le P, ouais. Est la seule qui a été composée juste avant. Voilà.
À quoi ça sert la musique ? À quoi elle vous sert la musique ? À apprivoiser le manque, à apprivoiser la douleur, on imagine. Mais avant la perte de votre mère, à quoi elle vous servait la musique ?
Moi, elle m'a toujours servi à survivre, à vivre. Enfin, je crois que c'est un langage sans. Enfin, qui m'a sauvée, je crois, quelque part.
Elle vous a sauvée de quoi ?
Parce que vous avez commencé très tôt.
Moi, je suis curieuse.
La musique, le violon, le lyrique.
Ouais. Oui, j'ai commencé très tôt la musique. Et c'est ma grand-mère qui m'a fait commencer le chant quand j'étais petite. Et pour moi, c'est vrai que la musique est une forme de langage qui m'a permis de sûrement d'exprimer et d'arriver à dire des choses qui étaient impossibles à dire pour moi avec le langage. La parole, quoi. La parole quotidienne.
Mais vous avez écrit, vous avez commencé par écrire, oui. Vous écriviez de la poésie, vous en écrivez toujours ?
Oui, toujours. C'était mes deux moyens, quoi. Mais c'est drôle parce que la musique, pour moi, est presque plus du côté de la vie. Enfin, dans les moments... Enfin, toujours, quoi. Il y a un endroit où c'est comme si, quand on est dans la musique, il y a déjà une forme de victoire, en fait. Alors que l'écriture, elle arrive dans des moments sûrement plus troubles, je crois.
Denise Bombardier, vous avez une question pour Clara Isée ?
Elle n'a pas la même voix quand elle chante en anglais.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est pour ça que j'adore chanter dans des langues différentes. C'est que je trouve que chaque langue nous amène, malgré nous, dans des univers dans des sonorités, dans des univers de pensée, de rêverie qui sont différents.
Mais même dans la musicalité, c'est sûr.
Totalement.
Sa voix est plus grave, plus... Ouais. C'est frappant.
Vous avez eu des modèles pour la voix, justement, des chanteuses qui vous ont inspiré ?
Ah oui, beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup écouté Maria Callas.
Ouais. Chanteuse lyrique, donc, au début.
Voilà. Et puis, Chavela Vargas.
Ouais, parce que vous avez une passion pour les voix d'Amérique latine.
Ouais, j'adore.
Le tropisme de la nounou.
Même, je crois que j'ai toujours été bouleversée par les voix. Et je trouve que de ce côté-là du monde, il y a des voix extraordinaires, quoi. Mercedes Sosa, c'est des monuments. Enfin, il y a un endroit où c'est presque des voix où on reconnaît plus si c'est des femmes ou des hommes ou... Elles sont tellement puissantes qu'on se pose même plus la question et ça me bouleverse.
Quand vous étiez étudiante, donc il n'y a pas si longtemps, vous organisiez des soirées musique. Vous programmiez quel genre de musique, Clara Isée ?
Alors, c'était des soirées musique qu'on a commencé à organiser de façon vraiment complètement informelle avec ma meilleure amie avec qui je vivais en colocation à l'époque, qui s'appelle Lou. Et au début, vraiment, c'était juste pour nous, quoi. Ouais. On a invité nos amis musiciens en disant, voilà, on passe la nuit à faire de la musique ensemble. Donc au début, on était 4-5 et en fait, ça a fini par être un truc un peu délirant. On était 40 musiciens. Et en fait, c'est toujours la même chose. Mais moi, j'adore les grands instrumentistes, quoi. Et je crois que ça s'entend parce que je suis merveilleusement entourée. Je crois que j'ai toujours, pour les soirées musique, ça m'émerveillait, même quand je connaissais pas les gens, de leur dire « Ah, samedi, on fait un truc à la maison, est-ce que vous voudriez passer ?» Et en fait, ça a brassé pas mal de gens, c'est comme ça que j'ai rencontré tous les amis qui m'accompagnent. Et c'est des moments un peu hors du temps, privilégiés, parce que je crois que quand on réunit des gens pour inventer ensemble, c'est jamais aussi beau que... Ouais, c'est beau, quoi.
Comme dans cet album Merci Clara Isée, merci Denise Bombardier. On va se quitter peut-être quelques... Bon, rappelle peut-être on rappelle, le concert.
On rappelle la sortie du EP. Le Monde s'est dédoublé de Clara Isée. Et puis il y a ce premier concert, parce qu'il va y en avoir d'autres. C'est en train de se monter. Une première partie d'Arthur H. au Cabaret Sauvage à Paris, le 15 juin.
Merci. Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes. Ce sera après le journal, avec ça comme sujet.
Est-ce que c'est bien notre rôle de vendre des armes? Oui, c'est notre rôle.
Vente d'armes, un secret français, manifestement pas, comme le dirait François Hollande. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.